Vous écoutez RTL.
20h-22h.
Pour moi, ce n'est pas un miracle, c'est la simple conclusion d'une course que j'avais préparée peut-être bien un an à l'avance.
Thomas Hugues.
Car j'estime que ce n'est pas là que j'ai gagné le Tour de France.
Sidonie Bonnec.
À mon avis, je l'ai gagné sur tout l'ensemble du Tour, car j'avais repéré mes adversaires et je m'occupais surtout de mes adversaires. C'est pour ça que mon Tour de France 47 a été certainement des plus critiqués et qui, à mon avis, pourtant est le plus beau de tous, qui a été le fait le plus régulier du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était il y a 70 ans, un Breton dont on avait souvent moqué la maigreur, la petite taille, remportait le Tour de France et devenait le héros dont la France de l'après-guerre avait tant besoin. On vous raconte l'histoire de Jean Robic avec un écrivain amoureux de vélo. On est très heureux de le retrouver sur RTL. Bonsoir Christian Laborde.
Bonsoir Thomas,
vous
bonsoir Sidonie.
Je
vais très bien et je suis toujours ravi d'être à ce micro rouge.
Ah bah oui, et d'ailleurs vous serez à notre micro RTL pendant l'été, on en reparlera tout à l'heure à l'occasion du Tour de France. On vient d'entendre Jean Robic là. Il y a déjà, avant de le décrire, parce qu'il va falloir que vous nous décriviez le bonhomme, il y a le caractère.
Ah
c'était
oui.
Un sacré caractère.
C'est un tempérament terrible. Et ça a été toujours un homme seul, le monde contre lui. On s'est toujours moqué de Robic. On ne voulait pas de lui en équipe de France. Il était seul. Lui, il voulait gagner le Tour. Et il a gagné le Tour. Donc vraiment, c'est un tempérament et une résistance aussi à la douleur terrible.
Et
terrible.
Une énorme confiance en lui.
Énorme. Faut dire, que voulez-vous, Sidonie ? Il avait dit à son épouse, « Je t'épouse. » Je suis pauvre, le Tour de France sera mon cadeau de mariage.
Et
une promesse tenue par Robic.
Ouais.
On ne peut pas mentir à Raymond de Cornic.
À sa toute récente femme, ça c'est sûr. Il ressemblait à quoi Robic ? Faut nous le décrire.
Écoutez, s'il fallait voir Robic, il faudrait regarder peut-être du côté des jeux vidéo, du côté de ces petits bonhommes, des gnomes. Il mesurait 1m61,
ouais.
Il pesait 61 kilos.
Et les oreilles un peu décollées,
un petit faune. Il était,
ouais.
Il était quand même assez disgracieux.
Le
on
torse
va dire.
Un peu tordu aussi.
Le torse un peu tordu. Il était tordu sur son vélo parce que les vélos, quand il était gamin, étaient trop grands pour lui. Donc disgracieux, inélégant et donc sujet à raillerie. Et ça, on s'est moqué de lui en permanence, mais lui, il savait ce qu'il voulait, il avait ce tempérament, et donc il a réalisé cet exploit qui consistait à gagner magnifiquement un tour qui plus est, un tour historique, donc celui de 47 de l'après-guerre. Quoi.
Christian Laborde, vous racontez l'histoire de cette course exceptionnelle, cette course de 1947, dans un livre, Robic 47, qui est publié aux éditions du Rocher. On va vraiment prendre le temps de raconter cette course,
oui.
Bien sûr, mais d'abord, on va remonter le temps jusqu'aux années de jeunesse de Robic. Il naît en juin 1921, qui c'est qui lui transmet la passion du vélo ?
Ah, je dirais que la passion lui est transmise par son père et par la Bretagne. Car il est donc un enfant de Radnac, dans le Morbihan, et son père était coureur cycliste, il était coureur amateur, il avait fait quelques courses. Et qui plus est, donc, il y avait ce lien familial, et puis ensuite il y a la Bretagne, tous les week-ends, des courses. Et il faut savoir que la patrie du vélo en France, c'est la Bretagne. Elle a donné Louis Embobet, elle a donné Bernard Hinault, mais je veux dire, c'était vraiment le sport numéro un. Et donc, tous les week-ends, il y avait des courses. Et donc, Robic, il avait envie de courir. Et puis, son père avait un magasin de cycles.
Ah, de cycles. Et voilà. Puis, vous racontez qu'un soir, alors que son père discute vélo avec des clients, Robic fils est assis par terre.
Oui.
Qu'est-ce qu'il crie, soudain ?
Il crie « Je serai champion cycliste ».
Alors que c'est un petit gamin.
J'allais
dire un pitchoun, c'est
un pitchoun. C'est un pitchoun assis par terre,
oui.
Entre les cadres d'Ilecta. Il est en train de regarder les cadres d'Ilecta et il s'écrit « Je serai champion cycliste ». Et là, tout le monde se retourne, qui a parlé, c'est le gamin par terre. Et là, tout le monde rigole, y compris son papa.
C'est l'histoire de Robic.
C'est
déjà en germe tout ce qui va lui arriver toute sa vie, parce qu'il va devoir prouver d'abord à son père, qui peut être un champion cycliste. Alors, on ne peut pas forcément raconter toutes les histoires, il y en a plein, mais on va raconter une première course. Il a 13 ans, il y a les gendarmes de Radenac qui lui lancent un défi, c'est ça ?
Tout à fait.
Et alors, il va participer à une course, ça se passe comment ?
Les gendarmes l'abordent et lui disent « C'est toi, Robic, c'est toi qui vas devenir champion cycliste ?» Et il leur répond « Oui, je vais gagner le Tour de France ». Tu vas gagner le Tour de France. Eh bien, écoute, demain, il y a une course là, autour de l'église, une course d'amateur, enfin, d'improviser. Tu y participes. Écoute, si tu participes et si tu arrives à tenir le rythme, parce qu'il n'avait jamais couru, vous comprenez, si tu arrives à tenir le rythme, on te donne 20 sous. Et là, Robic dit, ma première prime, quoi. Et il prend, et Ils n'arrivent pas à lâcher Robic. Les gars attaquent sans arrêt. Ils se battent entre eux. Ils ont 2-3 ans de plus que lui.
Et lui, il a un vélo trop grand.
Il a un vélo trop grand pour lui. Il a récupéré un vélo plus ou moins lourd, enfin un biclou, quoi. Et sur ce biclou, il tient, il ne le lâche pas. Et donc, à la fin de la course, il va voir les gendarmes pour avoir ses 20 sous. Il a gagné. Et les gendarmes ricanent, lui tournent le dos et s'en vont. Alors, il râle comme un fou.
Mais il n'a pas gagné la course.
Il n'a pas gagné la
mais
course.
Mais il ne s'est pas fait décrocher.
Il ne s'est pas fait décrocher. Ouais. Et ça, c'est incroyable, arriver à tenir. Ouais. Il a tenu, donc il a gagné le pari de tenir. Il a tenu. Donnez-moi les 20 sous. Il ricane. Et alors là, Roby, que fait-il? Il remonte sur le vélo et il tourne de rage de nouveau. Et les gens se moquent. La course est finie, petit, la course est finie. Et lui, il continue. Je gagnerai le Tour de France.
Il y a une course qui va lui permettre de convaincre son père. Elle va se dérouler à Pleugriffé, qui participe. Et à quel point va finir le jeune Robic?
Là participent des gens qui ont déjà fait de la, qui ont déjà couru un petit peu, et donc ils lui ont dit viens Robic, on va voir ce que tu sais faire. Et alors il participe à la course, il arrive à tenir le rythme, il y a des échappées, il bouche les trous, arrive le sprint final, et là celui qui doit gagner parce qu'il est le plus fort s'échappe, franchit la ligne en vainqueur, et il se retourne pour voir à quelle distance sont les rivaux, et il voit que dans sa roue derrière lui il y en a un. C'est Robic. Robic finit second, déjà, quoi. Et donc, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, il veut gagner le Tour, mais il a vraiment du talent, ce petit coureur.
Mais là, son père est là.
Et là, son père
le voit.
Et là, son père lui dit chapeau.
Ouais,
et alors là, félicité par son papa, ça va devenir pour lui un quelque chose de très, très important, bien sûr.
Une première reconnaissance. La guerre va freiner la carrière de Jean Robic, mais lors du Tour de France 47, il va devenir un héros, tout simplement. On vous raconte cette course de légende tout de suite sur RTL.
22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'histoire d'un champion pas comme les autres que l'on vous raconte sur RTL avec l'écrivain Christian Laborde, Jean Robic, vainqueur du premier tour de l'après-guerre en 1947. Alors avant de prendre le départ de cette course, eh bien Jean Robic, c'est ça les destins, a failli mettre un terme à sa carrière lors de la course Paris-Roubaix de 1946. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui peut faire faillir sa volonté?
Il y arrive une chute terrible du côté d'Amiens. On lui demande d'abandonner. Il refuse, bien entendu. Il termine la course. On est en 46, donc. Hein. Et arrivé à Roubaix, il monte dans un véhicule gazogène, enfin, un engin incroyable qui le ramène à la gare à Montparnasse. Et de là, il rejoint l'appartement où il habitait, chez sa tante, et il s'écroule sur la porte de l'appartement, sur le palier. On l'évacue à l'hôpital Boussicault, et en fait, il a une fracture du rocher. Il a fini Paris-Roubaix avec une fracture du crâne, donc. Mmh. Et le docteur lui dit, le vélo, il faut arrêter Robic. Il dit, il n'est pas question, docteur, pas question. Je suis un coureur. Et donc, c'est lui qui va lui conseiller de porter ce casque en cuir que Robic portait en permanence, qui lui permettait de le protéger au cas où il y aurait une nouvelle chute, quoi.
Et ce casque en cuir, et ses lunettes aussi qu'il va ajouter, oui. Ça va lui valoir de nouveau des moqueries des camarades.
Des moqueries, parce que notamment, il glissait sous ce casque en cuir un mouchoir pour se protéger de l'insolation. Alors, avec son casque, son mouchoir et ses lorgnons, on le traitait de petite vieille.
Parce que les autres avaient quoi sur la tête? Rien?
Ils avaient rien. La casquette, il n'avait pas ça. Lui, il avait cet encombrement, là. Mais la petite vieille en question, elle avait... c'était tartine, quoi. Elle avait un sacré coup de pédale.
Ouais. Christian Laborde, vous le dites d'ailleurs dans votre livre Robic 47 aux éditions du Rocher, il est abîmé comme la France est abîmée après la guerre, finalement.
Oui,
Jean
c'est
Robic.
Cela. Parce que, et il ressemble au pays. Parce que c'est un champion cabossé, comme le pays a été cabossé. Et il a connu tout ce que les Français ont connu. Il a connu l'exode. Il était donc à Paris. Il a dû rentrer durant l'exode à Radnac, à vélo, la valise sur le dos. Avec les avions allemands, les Stuka en piqué. Il a connu vraiment les mitraillages, etc. Les gens qui mouraient autour de lui sur la route, mitraillés par les avions allemands.
Il a été convoqué au STO.
Ensuite, il rentre à Paris, et là, il y a le STO. Il change 23 fois de domicile pour échapper au STO. Il y a les privations. Il arrive à s'alimenter comme il peut pour participer aux courses. Ensuite, il va renseigner la résistance. Et va arriver la libération, et là, il va devenir le champion de la victoire, de la France libérée. Et effectivement, il est aussi cabossé que la France, d'ailleurs. Mmh. Lorsque les étapes arrivent dans la façade atlantique, eh bien là, il traverse des villes comme Caen, qui sont actuellement entièrement en ruine. Oui. Et donc vraiment, c'est le paysage de la France détruite que traverse ce petit champion cabossé.
Mais il y a une espèce de délit de sale gueule, pardon de l'expression, contre Robic. Ah oui. Jacques Godet, qui est le patron de l'équipe de France cycliste, le sélectionneur de l'équipe, oui, de France, il ne veut pas de Robic.
Non.
Et pourquoi ?
Il ne veut pas de lui. En 1946, d'ailleurs, Robic est en train de gagner, semble-t-il, Monaco-Paris, la petite course à étapes qu'on a organisée avant le Tour. Et Jacques Godet vient dans sa chambre, lui dit « Monsieur Robic, vous ne pensez pas quand même gagner Monaco-Paris ?» Et Robic lui répond « Moi, je ne sais pas, mais il faut demander à mes jambes. » Et le lendemain, évidemment, eh bien, on va empêcher Robic de gagner. L'équipe de France et l'équipe d'Italie vont se liguer pour empêcher Robic de l'emporter. Et d'ailleurs, Pierre Chani, jeune journaliste débutant qui va devenir la grande plume du vélo, écrit « On a assassiné Robic ». Oui. Et on lui promet d'entrer en équipe de France et on l'écarte de l'équipe de France en 1947. Il atterrit donc dans une équipe régionale, l'équipe de l'Ouest, et il ne peut pas gagner. Or, il va gagner par sa volonté.
Ce tour de 1947, ce Tour de France, Christian Laborde, c'est le premier de l'après-guerre. Quelle, oui, importance il a pour les Français ?
Il a une importance capitale. Il est aussi important que l'accordéon. En 1947, l'accordéon, on rejoue de l'accordéon. La France est libérée. Et dès l'instant que le Tour repart, ça veut dire que la France est vraiment libre. D'ailleurs, Alphonse Boudard l'a écrit. Les Français se sont sentis libres le jour où Robic est entré en vainqueur au Parc des Princes. S'il y a le Tour, c'est que la France est là.
Donc ça veut dire que tout le monde a les yeux rivés sur Tour 47.
Absolument. Et on l'attendait. Le Tour précédent s'était disputé en 1939 avec une victoire du Belge Silver Maes. La dernière victoire française sur le Tour, c'est 1937. 10 ans qu'on attend. Et 10 ans après, arrive Robic.
Au point que les politiques vont même faire en sorte, parce que c'est une période de privation, de restriction, donc ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie pour la route du Tour.
Oui, parce qu'on a peur de manquer d'essence. Ouais. Et je crois que c'est Paul Ramadier qui va monter au Parlement et dire aux députés, messieurs les députés, faites des restrictions d'essence sur tout ce que vous voulez, sauf sur le Tour de France. Il faut que le Tour de France ait de l'essence. Donc le Tour de France a eu de l'essence et Robic avait du jus.
Jean Robic qui prend donc le départ. Elle est bonne celle-là. Du Tour de France le 25 juin 1947. Un tour très attendu.
21 étapes, 100 coureurs, 5000 km, 5 millions de primes. Telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France.
C'est donc sous les couleurs de l'équipe de Bretagne, on disait, ou de l'équipe de l'Ouest ?
L'équipe de l'Ouest.
C'est donc sous les couleurs de l'équipe de l'Ouest que Robic va signer. C'est tout simplement l'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour de France, mais même de l'histoire du sport français. On va vous raconter quelques-unes de ces étapes mythiques. Ce sera juste après les informations sur RTL.
Et pour le programme, dans la seconde heure de curiosité, les secrets d'une révolution, celle d'une crypto-monnaie, le Bitcoin, qui s'échange grâce à une banque virtuelle et collective appelée la blockchain. Là, vous me dites, mais elle me
mais
parle
moi, je comprends,
chinois,
moi, je comprends
la
absolument pas.
Mais c'est
on
normal.
On en avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Et
on avait commencé à comprendre.
Voilà, j'avais commencé à comprendre, mais j'ai vraiment besoin
ce
d'une deuxième séance d'explication.
Ce n'est pas que du futur, c'est une nouvelle manière de payer. Vous allez voir, les curieux, vous allez tout comprendre. Bienvenue dans votre futur proche.
Allez, tout de suite, c'est l'heure des informations sur RTL. RTL, il est 21h.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes curieuse, vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit sur RTL. On est ensemble jusqu'à 22h. La curiosité, c'est un vilain défaut. Ce sont surtout des destins extraordinaires, des aventures de la science, de l'histoire. Et aussi, on s'intéresse à ce qui va changer notre vie quotidienne, Sidonie.
Comme la blockchain. Tout à l'heure, on découvrira une nouvelle monnaie qui n'a pas d'odeur. C'est le Bitcoin, une monnaie électronique qui ignore votre banquier préféré. Et bien, votre nouvelle banque, justement, c'est la blockchain. Tout se passe sur Internet. À quoi ça sert? Comment ça marche? Est-ce que c'est pour vous? Bah oui, pour vous maintenant et sans doute dans votre futur. Vous saurez tout vers 21h30.
Et tout de suite, on revit l'exploit de Jean Robic lors du Tour de France 47.
Chaque jour, elle est empruntée par des milliers d'automobilistes et quelques cyclistes, sûrement indifférents à son passé.
Pour satisfaire votre curiosité,
la côte de Bonsecours, longue de 2,3 km, fut le théâtre d'un épisode mémorable de la Grande Boucle. Le chemin vers la gloire d'un petit Breton à la tête dure. Il s'appelait Jean Robic.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL.
C'était il y a 70 ans, le Tour de France 1947 offrait une parenthèse heureuse dans un après-guerre marqué par les restrictions et les privations. Ce tour fut marqué par un coureur hors norme dont on vous raconte l'histoire sur RTL, c'est Jean Robic et c'est l'écrivain Christian Laborde qui nous sert de guide. Christian, que l'on entendra comme chaque été sur RTL à l'occasion du Tour de France. C'est prévu ça, ça y est, ça,
oui,
ça,
oui,
ça
s'organise. Oui, c'est calé, je serai là tous les matins à 7h38 pour raconter une histoire du Tour, un peu de la légende des cycles.
Et ben, on a hâte d'y être avec vous. On revit donc ce premier Tour de France de l'après-guerre. Jean Robic, qui a été snobé par l'équipe de France, on le racontait. Il court donc sous les couleurs de sa région, la Bretagne, et il se fait remarquer dès la quatrième étape. Regardez ce qui se passe ce jour-là.
La quatrième étape, Luxembourg-Strasbourg, est toujours caractérisée par une température saharienne. C'est l'étape du repos et des facéties. Cependant, en fin de parcours, Robic, Hubler et Diot réussissent à s'échapper. Trop rapide pour Diot, le duel se livrera entre le Suisse et le Breton Robic, qui se présentera finalement seul à Strasbourg, remontant à la sixième place au classement général.
Christian Laborde, est-ce que Jean Robic va prendre le maillot jaune à l'issue de cette étape ?
Pas tout de suite. Le maillot sera sur les épaules de Vietto. Mais on sent déjà, on n'est pas encore dans la montagne, on sent déjà que Robic va attaquer. Et parce qu'on se rend compte qu'il est complet, Robic. Là, c'est des étapes pour les rouleurs. Je pense notamment à Kubler qui est là. Eh bien, c'est Robic qui gagne.
C'est quoi un rouleur ?
Un rouleur, c'est quelqu'un qui est capable de bouffer du vent, comme disent les coureurs.
Un endurant,
de rouler sur les longues distances. Et pour ça, il faut être en puissance. Eh bien, Robic savait faire ça. Il savait rouler, il savait sprinter. Il était bon sur la piste, on l'a vu durant les années 40. Et également, donc, il va être retenu dans l'histoire comme un immense grimpeur. Mais en plus d'être grimpeur, il était capable de se mêler au sprint ou de rouler avec des grands comme Ferdi Kubler. Et donc, il va battre Kubler. Et là, on se dit, Robic arrive, il est en forme. Et effectivement, il va tout de suite devenir menaçant.
Robic, il court avec l'équipe régionale de Bretagne. Ça se passe comment dans son équipe ? Ils sont solidaires ? On admire Robic ? On le pousse ?
Non, pas du tout. Parce que l'équipe de Bretagne n'a pas de leader. Il faut bien comprendre que le Tour est composé d'abord des équipes nationales. Il y a l'équipe de France, il y a l'équipe italienne. Ça, c'est les grands. Et puis les équipes régionales, ce sont des coureurs que l'on assemble pour des raisons géographiques. Mais l'équipe de l'Ouest n'a pas de leader. L'équipe de France, elle est entièrement construite autour de René Vietto. On doit servir René Vietto pour qu'il prenne le maillot. Dans l'équipe de l'Ouest, chaque coureur pense à lui.
Ouais.
Donc Robic n'est pas le leader. Il est un coureur parmi d'autres. Mais très vite, il va s'imposer. Mais s'imposer seul, il n'aura pas de... Ses équipiers ne vont pas tellement l'aider. À la fin, oui. Mais au départ, il est seul. Il doit faire sa place, Robic. Donc, au sein de sa propre équipe, se battre tout seul et ensuite affronter tout seul un Vietto qui est protégé par des équipiers puissants. Et il va dominer.
Ouais, René Vietto, qu'on surnommait le roi René. C'est quoi les surnoms de Robic ?
Ah, Robic, il est couvert de surnoms. Alors, c'est Biquet. Il est surnommé le nain jaune aussi, égard à sa taille. On va le surnommer aussi casque de cuir. Il est couvert de surnoms et couvert de fractures. C'est vraiment le vilain petit canard des cycles, Robic.
Est-ce qu'il est déjà populaire sur les routes du Tour ?
Pas encore. Ne le connaît pas. La France va le découvrir en 47. Et là, il va jouir d'une popularité dont elle est égale à celle d'un Poulidor. Robic, ça va vraiment devenir un nom. Et quand on parle avec des gens d'un certain âge, leur Robic, ça a été... Ah oui, ça, il compte beaucoup dans la mémoire. Et en plus, il faut dire que son tour a été magnifique.
On va continuer à le raconter, ce tour. Et c'est lors de l'étape partie de Luchon que Robic va écrire la légende du tour. Il a pourtant 27 minutes de retard sur Vietto, la star. Il va lui en reprendre beaucoup ?
Oui, il va reprendre 15 minutes. Enfin, c'est hallucinant quand on sait aujourd'hui qu'un Tour de France se perd pour 8 secondes ou 9 secondes. Mais là, Robic, au départ de Luchon, il dit « J'ai passé une très bonne nuit, j'attaque ».
Et donc, il attaque dès le début, quoi.
Dès le début.
Personne
ne
se méfie.
Personne. À Luchon, on abaisse, le drapeau est abaissé, il part. C'est-à-dire qu'il y a 4 cols. Il faut que les auditeurs comprennent bien. Vous avez le Peyresourde, l'Aspin, le Tourmalet, l'Aubisque.
Quatre
montées dures. Hein. Mmh. Eh bien, il part au pied de la première. Dans le Peyresourde, il est tout seul. Et il va franchir les 4 cols tout seul. et il va ensuite arriver à peau détachée. Ils ne pourront pas revenir sur lui. C'est un exploit inouï. Et là, dans une voiture, il y a un homme qui est absolument admiratif en voyant ce qui se passe. Et il dit « ce type pédale comme je boxe ». C'est Marcel Cerdan qui voit ça. Il se dit « ce type-là a un punch terrible ». Et effectivement, ce petit bonhomme, avec ses lunettes rondes, son casque en cuir, son look de mémé, il va tout fusiller. Et alors, il faut bien comprendre, et c'est là qu'est la beauté de Robic, c'est qu'aujourd'hui, souvent, les coureurs s'expliquent dans le dernier tiers du dernier col.
Ben oui, c'est vrai.
Non, lui,
personne ne va prendre le risque d'attaquer au pied du premier col d'une grande journée dans les Alpes ou les Pyrénées.
Les coachs, les conseillers vous disent hop, doucement. Non, Robic, on ne le conseille pas. Il part tout de suite. Et ça a été cette idée folle. Et il a accompli une étape de légende.
Il faut rappeler, Christian Laborde, qu'il y a Raymond, quelque part, sa douce à qui il a promis de ramener en cadeau de mariage ce Tour de France. Elle est où, là?
Elle est encore en Bretagne. Elle est à Paris. Et ils échangent par carte postale. Il y écrit des cartes postales. Elle lui répond. Je sais que tu vas gagner, je sais que tu vas gagner. Et effectivement, elle sera à l'arrivée au Parc des Princes. Et il y a cette image formidable. Il gagne, il lève les bras, il descend de vélo, il traverse le Parc des Princes pour aller vers Raymond. Et il lui dit « j'ai ton cadeau ».
Voilà, ouais, c'est génial. C'est une histoire.
C'est Robic, c'est formidable.
Oui, en plus, ça rajoute à la légende.
Ah, c'est ça, c'est un tour sentimental. C'est romanesque, en diable en plus. Quoi.
Robic 47, c'est le titre de votre livre, Christian Laborde. Et c'est publié aux éditions du Rocher. Bon, voilà, il gagne cette étape partie de Luchon après un exploit sans précédent. Il n'y a pas eu beaucoup d'équivalent depuis en 70 ans d'histoire du tour. Le regard sur lui change, j'imagine.
Alors là, oui. Parce qu'on parlait du début du tour. Personne ne cite le nom de Robic. Parmi les favoris, il n'est jamais cité. Mmh. Et là, évidemment, la presse qui a commencé à s'enthousiasmer dans les Alpes, parce que dans les Alpes, il a fait des coups terribles, là, vraiment, le nom de Robic fait la une. Et il lui reste encore un peu de temps à reprendre. Il sait très bien qu'il le reprendra et donc qu'il gagnera à Paris. Lui, il le sait.
Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un jeu d'alliance? Parce que c'est ça aussi l'histoire d'un Tour de France. C'est trouver des alliés parmi les autres équipes ou parmi les autres coureur, et vous nous avez décrit un Robic isolé, seul au début de ce Tour 47. Est-ce que ça change après l'étape de Luchon?
Ça ne change pas, mais ils sont cuits. Il les a épuisés. Je veux dire, personne ne sort indemne de l'étape des Pyrénées. Et lorsque va arriver ensuite le contre-la-montre, un contre-la-montre de 130 km.
Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 50 km,
c'est
parfois
50,
60,
70. Ouais. Tour d'Italie, là, on vient d'avoir des contre-la-montre de 28 km. Oui. Là, c'est 130 bornes. Il finit second. Vietto est cuit. Et donc, lui, il a encore du jus. Entre-temps, le bouquet qu'il a gagné à Pau...
Ah, attendez, on ne va pas raconter trop vite. Non,
je veux
Christian,
dire
vous êtes en train de payer une belle étape, si j'ose dire.
Bien comprendre que 130, là aussi, c'est Vietto qui devait gagner le chrono. Ouais. C'est les Italiens qui devaient gagner le chrono. Il devait être lâché, Robic. Il est devant dans le chrono. Donc, il est en forme dans la dernière semaine. Et c'est ça, la grande classe.
Et c'est dans la dernière semaine, effectivement, que Jean Robic va remporter ce Tour 47, puisqu'il n'a toujours pas revêtu le maillot jaune de leader. Il va falloir attendre le tout dernier jour pour ça. C'est vraiment un tour de légende qu'on vous raconte sur RTL. Restez avec nous.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes en 1947, il y a 70 ans, c'est le Tour de France. Et Jean Robic va bientôt tenir la promesse faite à sa femme, Raymonde, lors de son mariage. 3 jours avant le départ, il lui dit « Je suis pauvre, je t'épouse, le Tour de France sera mon cadeau de mariage. » Quelle classe! Pour raconter ce tour d'exception, un conteur d'exception aussi, l'écrivain Christian Laborde qui nous transmet sa passion du vélo chaque été sur RTL. Et vous serez au rendez-vous encore cet été. Christian, on vient de revivre, grâce à vous, l'étape de Luchon. Robic est revenu à la 5e place du classement. C'est assez incroyable. Qui est le maillot jaune?
Alors le maillot jaune est sur les épaules de Vietto jusqu'à ce contre-la-montre de 130 km en Bretagne.
La star de l'équipe de France.
La star de l'équipe de France, mais il finit le contre-la-montre cuit et donc le maillot va tomber, si on peut dire, sur les épaules de Pierre Brambilla, coureur d'origine italienne, donc qui pense avoir à ce moment-là gagné le Tour. Vietto est battu. Il est épuisé, en fait. Donc, Brambilla a course gagnée. Sauf qu'il y a dans le peloton Robic.
Oui. Alors Robic, vous avez commencé à nous raconter cette histoire tout à l'heure, Christian Laborde. Robic qui va profiter du passage du Tour de France sur ses terres, oui, bretonnes, pour faire quoi ?
Durant l'étape de repos, il avait demandé à Pierre Cloarec, son directeur sportif, de garder le bouquet de vainqueur de l'étape Luchampeau. Il avait mis dans la voiture, tu le gardes ce bouquet. Et donc, durant l'étape de repos, il a pris ce bouquet, il a été à Radnac, son village, et il a été déposé son bouquet de vainqueur sur la tombe de son papa, donc qu'il avait perdu durant la guerre, mort accidentellement. Et donc, il a tenu à rendre hommage ainsi, tu vois, le bouquet est pour toi. Quoi.
Donc, son papa ne l'a pas vu en grand champion cycliste.
Non, non. Il l'a vu.
Il a vu l'amorce d'une carrière.
Il a vu l'amorce de la carrière. Ouais. Ensuite, il l'a vu aussi gagner des courses durant la guerre. Mais vraiment, l'avènement, il n'y a pas assisté. Et ça, c'est vrai que c'était un Robic qui a toujours pensé au fait que son père n'était pas là. D'où ce bouquet, quoi.
Et vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était dans ce magasin de cycles que tenait son papa, que le petit, oui, Robic, dans un coin comme ça, dit un, oui, jour, je serai champion.
Champion cycliste, oui. Et son papa vendait des cadres de marque Dilecta. Et Robic se délectait des cadres Dilecta. Et il a dit, je serai champion cycliste.
C'est un bonheur de vous avoir. Vous ne voulez pas venir tous les soirs, parce que comme ça, jouer avec les mots,
avec nous. Plaisir.
On refait Nougaro, on avait fait Nougaro,
oui,
ensemble.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a quelques mois.
Il disait quoi d'ailleurs, Claude Nougaro, sur votre manière de parler?
Écoutez, il
votre
disait...
Votre musicalité.
Oui, il disait que j'étais un musicien, parce que j'avais un sens de l'oralité, du son. Et c'est vrai que... On entend toujours parler du sens et écouter les intellectuels, ou les intellectuels, comme disait Claude. Ils parlent sans arrêt du sens, du son. Mais le son, qui a du son? C'est ça qui compte, le son. Donc on a le souci du tempo.
Allez, le tempo, et le tempo, il fallait en avoir aussi pour remporter la dernière étape du Tour. C'est ce que vous allez nous raconter maintenant. On est dans la côte de Bonsecours, en Normandie. Alors, il faut nous décrire un peu la situation. Robic qui attaque, il y a qui à ses côtés?
Alors, à ses côtés, il y a Brambilla maillot jaune. C'est donc Brambilla qui va gagner le Tour. Et il reste
un Italien. Hein.
Un Italien. Hein. Mmh. Il reste une dernière côte, la côte de Bonsecours. Et donc là, Robic attaque, il place il va là vraiment se comporter en pur grimpeur, c'est-à-dire il produit un démarrage terrible. Sur ce démarrage, Brambilla arrive à résister, et comme c'est toujours le cas, le pur grimpeur attaque une seconde fois. Il attaque donc une seconde fois, et là, Brambilla craque. Et donc là, c'est terminé pour Brambilla. Et là, Robic est repris par Fachleiner, un équipier donc de Vietto. Et les voilà tous les deux.
Un Français.
Donc dans la côte de Bonsecours. Mmh. Et là, évidemment, les motards vont leur dire « roulez ensemble, il faut qu'un Français gagne ». Et donc, voilà donc Robic et Fachleiner qui basculent au sommet de la côte de Bonsecours et qui vont donc rouler ensemble vers Paris.
Fachleiner va rouler pour lui, mais pas pour rien.
Ah voilà, il va rouler pour lui, parce que là, il va y avoir une petite combine. Oui, effectivement, Tesser de l'équipe de France qui est devant et se laisse décrocher et se met avec eux. Ils sont donc tous les trois. Et là, ils ont compris, toutes les façons, qu'ils ne pourront pas lâcher Robic. Alors, Fachleiner lui dit, écoute, moyennant un peu de monnaie, je roule pour toi. Alors Robic lui dit, ok, ça c'est la règle du peloton,
ouais,
c'est la loi du mieux. Ok, tu roules pour moi et donc financièrement, tu seras payé à l'arrivée. Simplement, leur idée, c'était quand même plus ou moins d'avoir Robic. Et c'est ainsi que Tesser, comme par hasard, de l'équipe de France, va tomber contre la roue de Robic, faire tomber Robic, dérailleur brisé. Heureusement, Robic est tout de suite dépanné, il remonte sur son vélo, il se met devant, et là, il leur fait comprendre qui est le plus costaud. Et ils ont compris que c'est fini, ils ne pourront pas lâcher Robic.
Voilà. Et Jean Robic entre en vainqueur au Parc des Princes.
Et à Saint-Germain, les cinq hommes de tête n'ont plus que 5 minutes d'avance sur Robic. Le Belge chasse les tâches et gagne l'étape, cependant on sait déjà que Robic a ravi le maillot jaune de Brambilla. Le voilà, la foule l'acclame, le haut-parleur le proclame, la radio consacre le grand vainqueur du Tour de France.
Christian Laborde, vous racontez ce tour mythique dans votre livre Robic 47 qui est publié aux éditions du Rocher. Ses adversaires, on l'entendait parler de ses adversaires tout à l'heure, il disait qu'il ne le craignait pas, qu'il avançait. Et alors, parmi ses adversaires, il y a Jacques Godet qui est le sélectionneur qui lui a fermé les portes de l'équipe de France. Est-ce qu'ils sont beaux joueurs, ces adversaires ? Ils vont fêter sa victoire, ils vont savourer, c'est collectif.
Oui, je pense que René Vietto, en tant que champion, va tout de suite saluer Robic. Et puis, que voulez-vous, il ne peut pas penser différemment de ce que pensait Marcel Cerdan. Si Cerdan dit Robic est un grand, je veux dire, on se range à l'avis de Marcel Cerdan. Donc non, il n'y a pas eu de soucis. Godet n'était pas son adversaire, il était le patron du Tour. Mmh. Simplement, Godet avait son idée du vainqueur. Il aurait voulu que Vietto gagne le Tour. Simplement, c'était les plans, c'était prévu. Ils avaient tout prévu, sauf Robic.
Et Robic donc devient le premier vainqueur français depuis 10 ans, vainqueur du premier tour de l'après-guerre. Il y a encore plein d'histoires à découvrir dans votre livre, mais il faut quand même boucler. Qu'est-ce qu'il devient après ? Il gagnera d'autres tours ?
Alors, il sera encore présent sur la route du Tour. On le verra accomplir des exploits, mais il ne gagnera pas un second tour. Mais vous savez, gagner le Tour de France, c'est absolument fabuleux. Donc, il a son nom dans le palmarès. Et puis, il faut voir le bonheur qu'il a procuré aux Français et aux habitants de Radenac.
Allez, racontez cette dernière histoire.
C'est extraordinaire.
Qu'est-ce qui fait le curé
de Radenac ? C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a que la radio. Ouais. Donc le curé, il est dans son presbytère, il écoute la radio et il entend à la radio que Robic vient de gagner. Alors, il veut prévenir les habitants de Radenac qui sont sur les champs. Vous savez, les paysans, l'été, ils travaillent, ils ne vont pas quitter les champs comme ça. Alors le curé, il fonce dans son église, il fait sonner le tocsin. Là, les gens quittent évidemment les champs et ils viennent autour de l'église.
Ils pensent qu'il y a un incendie.
Il y a un incendie. Ils veulent savoir et ils demandent au curé où est le feu. Et là, le curé sort de l'église de Radenac, les bras ouverts, et il dit « Jean a gagné le Tour de France ». Et ça, c'est la grande nouvelle. Et donc, évidemment, la joie de Radenac. Ils feront une procession le soir au flambeau pour fêter Jean Robic.
Il est mort quand, Robic ?
Il est mort d'un accident de voiture je ne sais plus la date exacte, voyez-vous.
Dans
une centaine d'années.
Voilà. Mais surtout, je veux dire, il est Robic, quoi. Il est pour tous. Et aujourd'hui, quand vous montez le col du Tourmalet, comme je peux le faire à mon rythme, il y a toujours un vieux paysan pour me crier « Vas-y, Robic ». Le nom est resté, quoi. Oui. Il est resté là.
Merci beaucoup. Merci Christian Laborde. Robic 47, c'est le titre de ce livre magnifique qui est publié aux éditions du Rocher. À bientôt.
Et belle été sur RTL, puisqu'on vous retrouve tout l'été avec nous.
Merci, à bientôt.
Dans la matinale. À bientôt, Christian.
Merci. Au revoir, Sidonie.